proposons la lecture du chapitre 7 du livre des Juges. Et Jérubbaal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui. Et ils campèrent près de la source de Harod. Et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, « Ma main m'a sauvé. » Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, « Quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. » Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi. Et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. » Et il fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Quiconque lappera l'eau avec sa langue comme lappe le chien, tu le mettras à part, et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. » Et le nombre de ceux qui lappèrent dans leurs mains en la portant à leur bouche fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, « Je vous sauverai et je livrerai Madian en ta main, mais que tout le peuple s'en aille chacun en son lieu. » Et les 300 hommes prirent en leurs mains les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, et retint les 300 hommes. Or le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Et il arriva cette nuit-là que l'Éternel lui dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main. Et si tu crains d'y descendre, descends vers le camp, toi et Pura, ton jeune homme, et tu entendras ce qu'ils diront. Et ensuite, tes mains seront fortifiées, et tu descendras au camp. » Et il descendit, lui et Pura, son jeune homme, aux avant-postes des hommes armés qui étaient dans le camp. Et Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles. Et leurs chameaux étaient sans nombre, en multitude, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Gédéon arriva, et voici un homme racontait un songe à son compagnon. Et il disait, « Voici, j'ai songé un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. » Et il arriva jusqu'à la tente, et la heurta, et elle tomba. Et la tente était là, renversée. Et son compagnon répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout le camp en sa main. » Et il arriva, lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna. Et il retourna au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian en votre main. » Et il divisa les 300 hommes en 3 corps et leur mit à tous des trompettes à la main, et des cruches vides et des torches dans les cruches. Et il leur dit, « Regardez ce que je vais faire, et faites de même. Voici, quand j'arriverai au bout du camp, alors ce que je ferai, vous le ferez de même. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez des trompettes autour de tout le camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bout du camp au commencement de la veille du milieu de la nuit. On venait seulement de placer les gardes. Et ils sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Et les 3 corps sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches. Ils tenaient dans leur main gauche les torches et dans leur main droite les trompettes pour sonner et crier l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et ils se tenaient chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à fuir. Et les 300 hommes sonnaient des trompettes, et l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon dans tout le camp. Et le camp s'enfuit jusqu'à Bethsita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent de Nephtali et d'Azer et de tout Manassé, et poursuivirent Madian, et Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et enlevez-leur les eaux jusqu'à Beth-Mara et le Jourdain. » Et tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent des eaux jusqu'à Beth-Mara et du Jourdain. Et ils prirent les deux princes de Madian, Oreb et Zeeb, et tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et tuèrent Zeeb au pressoir de Zeeb. Et ils poursuivirent Madian et apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Question du verset 4 du chapitre suivant. Et Gédéon vint au Jourdain et le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Verset 28. Et Madian fut humilié devant les fils d'Israël, et il ne leva plus sa tête, et le pays fut en repos 40 ans au jour de Gédéon. Il est bien connu que le livre des Juges a son pendant dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître à Timothée. Et ces livres nous sont donnés pour notre instruction, pour que nous en tirions des leçons et des enseignements. Car Dieu a toujours en vue le bien de son peuple. Malgré les signes de la ruine qu'il atteigne aujourd'hui au sein de la chrétienté, la ruine du témoignage confié à la responsabilité de l'homme, il y a encore et toujours un chemin pour la foi et des raisons de prendre courage, car c'est le moment d'avoir du courage pour combattre les combats de la foi pour le bien de nos familles et de l'Assemblée. Sans doute nous devons être conscients du sérieux des temps auxquels nous sommes parvenus. Nous pouvons jeter un regard en arrière sur ce qu'était l'Église lorsqu'elle a commencé son cheminement sur la terre. Il y avait là une puissance du Saint-Esprit déployée dans le cœur de cette Église à tel point que tous ceux qui étaient sauvés étaient un cœur et une âme. Quelque chose qui n'a jamais eu son pareil dans les 2000 ans d'histoire de l'Église. Mais il a plu au Seigneur de susciter un réveil, comme nous le savons, au siècle dernier, et nous sommes les héritiers de ce réveil, alors que nous devons mesurer, si nous sommes droit devant Dieu, le chemin parcouru depuis que Dieu a retiré de tels conducteurs pour le peuple de Dieu. L'expression est scripturaire. Nous avons eu des conducteurs. Et ceux qui ont été plus proches de nous ont eu ce souci, qui est probablement ce qui a correspondu à leur fidélité réelle. Ils ont transmis aussi fidèlement qu'ils l'ont pu ce qu'ils avaient reçu des conducteurs qui avaient précédé dans le témoignage du Seigneur. Qu'allons-nous faire de cela? Eh bien, chacun doit se déterminer sur cette question essentielle. En tout cas, les ressources de Dieu sont là à la disposition de la foi. Et Gédéon nous enseigne quelque chose de l'attitude que nous devons avoir à la suite de notre divin Gédéon, qu'est le témoin fidèle et véritable, le Seigneur lui-même. Car le témoignage du Seigneur est résumé dans une seule personne, c'est Christ. Christ crucifié, Christ glorifié, Christ qui vient chercher son Église. Nous rendons témoignage à ces trois vérités qui sont intimement liées à la personne glorieuse du Seigneur Jésus. Et il y en a dans la chrétienté qui se contentent du Christ crucifié comme leur sauveur personnel. C'est déjà un point très important. Mais ils ne réalisent pas que cette croix a aussi une vertu pour les délivrer de leur nature adamique, les pour les, de leur moi, de l'influence du monde et de la chair et de la loi. Eh bien, cette croix nous rappelle constamment que nous sommes crucifiés avec Christ et qu'ainsi nous pouvons donner toute liberté à l'épanouissement de la vie divine en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et comme nous le voyons dans les Galates, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Dieu nous a fait un très grand honneur de venir habiter dans nos corps par son Esprit et d'habiter dans l'Assemblée par son Esprit. Nous devons retenir ce fait glorieux de la période très privilégiée de l'Église, à savoir que le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre par le Seigneur glorifié après qu'il ait accompli l'œuvre parfaite de la rédemption. Ce don de l'Esprit est un fait extraordinaire et spécifique de la période chrétienne. La chrétienté a lié le Saint-Esprit, comme nous le savons, et c'est l'homme avec ses opinions qui a remplacé l'activité du Saint-Esprit qui est attristé et éteint au sein de la chrétienté. Et ce danger nous menace tout pareillement si nous ne veillons pas à traiter cet hôte divin de nos corps avec tous les égards auxquels il a droit. Il y a une sensibilité divine dans le Saint-Esprit. Il doit nous faire sentir toute chose, ce qui ne va pas et ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Car c'est cette volonté de Dieu que nous recherchons dès l'instant où nous sommes dans sa proximité et où nous sommes remplis de l'Esprit. Cette volonté apparaît à de tels cœurs qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Cela devrait être un exercice de chaque jour pour chacun de nous individuellement, dès l'instant où nous sommes de vrais croyants, mais aussi un exercice pour la vie de l'Assemblée. Le rôle que joue le Saint-Esprit est très positif parce que il désire toujours nous occuper du Seigneur, nous occuper de celui qu'il nous présente comme l'objet de notre cœur, un Christ glorifié qui attire les regards de notre foi pour que nous le contemplions dans toutes ses gloires et dans toute sa beauté, et qu'ainsi nous reproduisions quelques traits sur la terre de la parfaite humanité du Seigneur Jésus. Et c'est cela qui plaît à Dieu, de constater dans la vie des siens la vie de son Fils bien-aimé dans ses traits qui sont ceux de la vie divine animée de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, pour les témoins de la fin, le Saint-Esprit n'a pas changé de son côté. Il reste, selon ce que nous voyons dans 2 Timothée 1, un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Donc voilà la seule puissance qui fait échec à toute la puissance du mal, aussi bien dans nos vies individuelles que dans la vie collective du peuple de Dieu. Alors, nous voyons que Gédéon a été préparé à l'école de Dieu. C'est le chapitre 6 qui nous entretient de cette préparation tout à fait remarquable. Dans un temps de ruine, où Israël se tournait régulièrement vers les idoles, faisait, comme il nous est dit, ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et alors, dans cet état de détresse extrême, ce peuple criait à l'Éternel, et en général, l'Éternel lui envoyait un sauveur dans la personne d'un juge marqué par certaines infirmités, et ce juge était employé par Dieu pour apporter une délivrance à ce peuple et lui permettre de jouir pour un temps du repos. Car lorsque le peuple de Dieu est en repos, c'est le signe très sûr que Dieu est là, que Dieu est honoré. Et il ne peut y avoir de repos quand l'ennemi est en train de séduire le peuple de Dieu. C'est la guerre déclenchée par l'ennemi et il faut les combattants de la foi pour chasser l'ennemi loin des frontières du peuple de Dieu. C'est pourquoi le combat chrétien est un aspect de la vie de la foi extrêmement important. Nous sommes sur un terrain ennemi, nous aussi. Et même le ciel est occupé par Satan et la puissance spirituelle de méchanceté qui opère dans les lieux célestes. Et ce que fait Satan pour ce qui concerne les chrétiens authentiques, c'est qu'il les empêche de toutes ses armes de jouir du ciel sur la terre. Et il n'y a pas de chrétien plus heureux que celui qui jouit du ciel dès maintenant, qui jouit de son céleste héritage, qui a sa portion en Christ, qui goûte combien le Seigneur est bon en l'introduisant dans la jouissance de ces richesses insondables du Christ. Et de tels croyants peuvent traverser le monde pour être, en y étant, les vrais témoins pour le Seigneur et pour Dieu, mais aussi des témoins qui peuvent être posés des points d'interrogation à d'autres âmes qui sont en recherche et les amener aussi par la prédication de la parole à la repentance envers Dieu et à la foi au Seigneur Jésus. Il y a aussi un trait dominant dans ce livre des juges qui est un élément caractéristique de la ruine, c'est qu'il nous est dit à deux reprises que chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. C'est toujours un signe de la ruine quand la propre volonté de l'homme se donne libre cours, même pour s'occuper des choses de Dieu. Nous devrions toujours dépendre de l'Esprit de Dieu pour nous occuper des choses de Dieu, être conduits par l'Esprit, être amené dans le champ du service par le Saint-Esprit. Et un croyant qui a reçu un don pour l'exercer au sein du peuple de Dieu, ou bien dans le vaste champ qu'est le monde, la seule puissance qui puisse être déployée également dans les temps de ruine, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et la propre volonté, lorsqu'elle agit, s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Cette volonté rebelle qui caractérise l'homme irrégénéré, le croyant la possède également par la présence de du vieil homme en lui, du moi. Ce moi qui est caractérisé par l'orgueil, par l'égoïsme, par la propre volonté. Et combien nous pouvons nuire au témoignage du Seigneur quand la propre volonté est en action dans nos vies. Et cela suppose que, sentant notre extrême faiblesse, nous sommes rejetés sur Dieu pour profiter de la puissance que Dieu va déployer dans les faibles vases de terre que nous sommes. Et néanmoins, malgré ces temps de ruines, il y a toujours un chemin qui est tracé à la foi. Et nous le voyons ici, Dieu prépare un serviteur qu'il va employer très utilement pour amener la délivrance de ce peuple. L'Éternel se révèle à lui au moment où il battait du froment et où il le mettait en sûreté de devant Madian. Il était là occupé de mettre en réserve de la nourriture pour son peuple, pour sa famille. C'est toujours un bon signe quand une âme que Dieu prépare, un serviteur, une servante, éprouve le besoin impérieux de se nourrir de la parole de Dieu. Selon ce qu'exprime le prophète Jérémie, lui qui avait tant besoin de la parole dans les temps si affligeants dans lesquels il se trouvait, il n'y a probablement pas un prophète semblable qui ait tant pleuré sur la ruine de la fille de son peuple, et il doit dire « Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Il avait besoin de cette nourriture, tout comme nous-mêmes, quand nous avons des combats à livrer en vue du bien du peuple de Dieu, eh bien nous avons besoin de cette nourriture excellente qu'est la parole de Dieu. Et cette parole peut concerner tous les états de croissance spirituelle de chacun de nous. Les petits-enfants qui connaissent le Père ont besoin de cette parole, les jeunes gens plus particulièrement concernés par la parole, sont forts car ils ont vaincu par la parole de Dieu, résistant à ces convoitises de la jeunesse qui sont si avivées au temps de la jeunesse et que l'Écriture caractérise ainsi. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et c'est pourquoi il est dit à ces jeunes gens qui ont besoin de vaincre par la parole de Dieu, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Une parole extrêmement sérieuse à serrer dans nos cœurs et qui concerne les jeunes gens. Et les pères ont besoin aussi de la parole de Dieu car ils se nourrissent de Christ. Christ est pleinement suffisant pour leurs âmes et c'est le Christ de toutes les Écritures. Donc ce jeune homme est en train de s'occuper, de ramasser, de mettre à l'abri cette nourriture dont il sent qu'il a besoin face à Madian qui se propose de ravager ce peuple et qu'il a déjà fait. L'Éternel s'adresse à lui en lui disant « L'Éternel est avec toi ». Voilà une des ressources. Il y a la parole comme nourriture et il y a la présence de Dieu à son côté. Un homme, un serviteur de Dieu, peut s'engager tout seul s'il a Dieu avec lui. Il n'a pas besoin d'être soutenu par le concours de bonne volonté qui sans doute désire bien faire, non. S'il s'en va avec Dieu, Dieu lui suffit. La puissance de Dieu est déployée pour le bien de l'ensemble. Sans doute il est précieux quand il est porté par les prières, cela est tout à fait nécessaire. Et l'assemblée en prière doit toujours avoir sur le cœur tous les serviteurs et toutes les servantes qui sont dispersés dans le champ du Maître. Ceci est important face à la puissance déployée de l'ennemi. Mais le serviteur, dans l'Écriture, est vu travaillant pour son Maître, pour un regard d'approbation de son Maître, et ce sont ceux qui sont à la source de bien des délivrances. Mais et nous voyons ensuite que ce Gédéon en entraîne d'autres à sa suite pour achever la victoire sur les ennemis du peuple de Dieu. Alors l'Éternel va l'envoyer. Il y a un temps où il se révèle à lui avec bonté, avec amour, si on peut dire, et il lui donne cette parole, « Va avec cette force que tu as, car tu sauveras Israël de la main de Madian. » Et c'est le moment pour Gédéon de réaliser son néant, son néant. Il doit dire, « Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il réalise toute sa faiblesse. Et c'est un signe aussi très sûr d'un serviteur que Dieu envoie quand il est conscient de son néant, de sa pauvreté, de sa faiblesse. Et Gédéon n'échappe pas à ce sentiment. Et on voit comment Dieu s'occupe de son serviteur avec beaucoup de soin jusqu'à ce qu'il soit entièrement affranchi de toute crainte pour s'engager dans le combat pour l'Éternel. Sans doute, il va offrir un sacrifice, nous voyons, dans des conditions qui ne sont pas conformes à la loi. Là encore, il y a beaucoup d'ignorance de notre part. Vous devriez être des docteurs, vu le temps, rappelé. Mais là encore, l'Éternel use d'une grande patience pour nous former à son école. Et nous voyons que l'ange de l'Éternel met son approbation par le feu qui consume la chair. Et puis, il est ajouté que l'Éternel lui dit, « Paix te soit, ne crains point, tu ne mourras point. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom, car c'est sur la base d'un sacrifice qu'il peut servir. et Dieu se révèle à lui, car ceci est aussi un point important. Dieu se révèle à ses serviteurs avant de les engager dans un service public. Il y a en secret un saint commerce de l'âme avec son Dieu, et il connaît l'Éternel comme le Dieu de paix. Et il adore. Et ensuite, eh bien, il doit agir d'abord dans sa maison. Il doit agir comme un fidèle serviteur pour revendiquer les droits de son Dieu dans sa propre maison où il y avait une idole à abattre. Et il le fait avec le courage qu'il avait, sans doute. Il ressemble quelque peu à Nicodème. Il le fait de nuit parce qu'il n'osait pas le faire de jour. Il redoutait un certain opprobre, comme nous l'éprouvons nous-mêmes. Mais il y avait là un cœur qui était droit, que l'Éternel soutenait, pour ainsi dire, et il accomplit ce que Dieu lui demande dans la maison de son père, en abattant ses idoles, et l'autel de Baal, et démolit la chair qui était auprès, était coupée. Et nous voyons que cela a failli lui coûter la vie. Dieu ne peut pas tolérer qu'il y ait un rival dans nos cœurs. C'est un Dieu jaloux. Il attend que nos cœurs soient engagés vraiment. Et nous retrouvons cette pensée vis-à-vis des 300 hommes qui seront choisis à la suite de Gédéon. Dieu ne peut utiliser des cœurs doubles, des cœurs partagés. Le cœur doit lui appartenir entièrement, selon cette expression que nous avons dans les proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et si Dieu a notre cœur, tout va bien. Car c'est dans le cœur que sont prises les vraies décisions pour chacun de nous. Ne l'oublions jamais. Nous faisons bien des raisonnements, mais le choix déterminant est arrêté dans le cœur. Alors Gédéon, qui connaît son Dieu et qui a éliminé les idoles de sa maison, il y a toujours pour nous aussi cette nuisance qu'apportent les idoles dans nos foyers, et nous devons être extrêmement vigilants à cet égard si nous avons à cœur le bien du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean, en terminant sa première épître, nous rappelle « Enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui peut prendre la place de Christ dans mon cœur est une idole. Et elle doit être abattue avec la même énergie que Gédéon a déployée pour abattre la chair ayant en vue de combattre les combats de l'Éternel. Il a encore un signe qui lui est donné pour affermir son courage, comme nous le savons, le signe de la toison. Et le voilà prêt à s'engager avec une partie du peuple vers la source de Haroth, où ils sont en train de camper et les ennemis étaient là, tout près. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains. » Et nous avons là, en quelque sorte, les caractères des témoins de Dieu. Le premier caractère, c'est qu'ils sont peu nombreux. Et nous sommes surpris de penser qu'il y a un tel tri. Il y a de nombreux croyants dans toute la chrétienté, dispersés dans tous les systèmes. Mais ce que Dieu emploie pour son témoignage au sein de la chrétienté, pour faire partie de l'assemblée de Dieu, colonne et soutien de la vérité, nous devons reconnaître qu'ils sont peu nombreux. Et cela nous amène à être conscients de notre extrême faiblesse. C'est ainsi que Dieu peut utiliser de tels témoins pour les conduire à la victoire qui profitera à l'ensemble du peuple de Dieu par le repos que lui procurera le juge qui a mis sa vie dans sa main pour combattre les combats de la foi. Alors il y a l'épuration au torrent. La première épuration concerne tous les peureux. D'ailleurs, nous retrouvons cette pensée dans le Deutéronome quand il s'agissait de partir en bataille. Au chapitre 20 du Deutéronome, nous avons les magistrats qui devaient parler au peuple en disant, verset 8 du chapitre 20, « Qui est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit, qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. » Voyons donc, cette notion de peur était déjà inscrite dans la loi. Il s'agit bien sûr d'accepter tout ce que comporte la guerre. Souffrance, labeur, peine, dans les combats pour Dieu, et nous devons faire notre compte. Il s'agit de s'appuyer sur Dieu seul et ne pas rechercher avant tout l'approbation même des hommes, même des frères. Si nous sommes du côté de Dieu, eh bien, nous devrions être sans crainte. La crainte vient toujours de la chair. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, c'est-à-dire ce qui est charnel, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Donc les peureux sont éliminés et nous voyons qu'il reste 10 000 hommes sur les 32 000 qui avaient été retenus. Et puis, nouvelle épuration. Nous voyons encore là un choix qui va être fait à partir de la manière dont ceux qui restent vont se désaltérer, soit qu'ils se courbent sur leurs genoux pour boire, soit qu'ils ils la perdent dans leurs mains en la portant à la bouche, cette eau rafraîchissante. Dans le premier cas, cela nous fait penser à ceux qui tiennent compte de leur confort, qui n'ont pas pour but précis la bataille qui est à livrer, et que de combats nous avons à livrer pour le peuple de Dieu dans les assemblées aujourd'hui. Il y a beaucoup de brèches. Eh bien, non seulement il s'agit de ne pas avoir de crainte charnelle, mais aussi de veiller à ne pas nous installer dans un confort qui amollirait toute énergie spirituelle. Car là, cette position sur leurs genoux pour boire nous rappelle bien ce danger-là qui nous menace aujourd'hui dans l'Europe occidentale, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs. Soyons-en conscients. Et alors, sous l'effet de cette influence qui a malgré tout un caractère mondain, nous devenons indifférents vis-à-vis des combats qui sont à livrer pour le bien du peuple de Dieu, pour qu'il soit gardé bien uni autour du Seigneur dans la jouissance de tout ce que sa grâce tient à la disposition de la foi. Donc voilà les 300 hommes qui, eux, sont orientés vers la bataille qui est à livrer. Ils ne tiennent pas compte du confort provisoire que leur apporte le fait de se désaltérer en prenant tous leurs aises. Non, ils lapent avec leurs mains cette eau et ils s'en vont au combat. C'est eux qui sont retenus. Il n'y a plus que 300 sur 32 000. Voyons un peu quel tri cela représente. Mais qu'importe le nombre, quand nous sommes avec Dieu, c'est toujours Dieu qui est le plus fort. Peut-être cela demandera un certain temps, ce tri ne se fait pas du jour au lendemain, pour ainsi dire, pour employer cette expression, mais il y a sans doute, pour les témoins de la fin, un tri qui est toujours nécessaire. Mais alors, eh bien, voilà ces hommes qui vont s'engager avec des vivres, nous est-il dit, dans leurs mains, les vivres du peuple et les trompettes qui nous parlent du témoignage. Ils sont engagés dans le combat, réalisant qu'ils ont besoin de nourriture et en même temps, ils ont les instruments entre leurs mains qui correspondent pour nous à ce témoignage que nous sommes appelés à rendre par la parole de Dieu. Un témoignage clair, précis à ce qu'est Christ pour nous. Mais Gédéon va avoir lui-même aussi pour ainsi dire, une ultime épreuve avant de s'engager. C'est ce qui apparaît dans le paragraphe des versets 9 à 14. Nous voyons que il doit descendre au camp, comme les hommes qui avaient été triés devaient descendre à la source de Haroth, et ces verbes ont un sens, sont chargés d'un sens moral. Nous devons toujours, pour livrer les combats de Dieu, réaliser notre néant total, nous l'avons déjà dit, mais nous juger profondément, réaliser qu'en nous, c'est-à-dire en la chair, il n'habite point de bien. Et donner, inscrire dans nos cœurs cette appréciation de Paul, un serviteur qui n'a pas eu son pareil pour l'Église, il doit dire « quoique je ne sois rien ». Voilà le sentiment que l'Esprit veut inscrire dans nos cœurs pour que nous puissions combattre les combats pour le bien du peuple de Dieu, aujourd'hui encore, face à tous nos ennemis. Et alors, pour Gédéon, il y a cette expérience que c'est un simple gâteau de pain d'orge qui a roulé dans le camp de Madian et qui a renversé la tente après l'avoir heurté. Il n'a pas plus de valeur lui-même qu'un simple pain d'orge. Il doit encore apprendre cette leçon avant de s'engager au combat. Et alors ensuite, c'est le combat. Et nous avons là les éléments du témoignage, en quoi consiste le témoignage. À savoir que dans cette lutte vis-à-vis de Satan, il y a tout d'abord ces trompettes. Ces trompettes qui doivent rendre un son clair face au monde ennemi. Le témoignage que nous avons à rendre, c'est par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons que, sans doute, c'est pour amener à faire briller la lumière des torches que tout cela est mis en œuvre, en particulier les cruches qui sans doute avaient contenu les vivres au départ, eh bien elles doivent être vides et les torches sont dans ces cruches. Et Gédéon indique à tous ceux qui le suivaient, ces trois corps de 100 hommes, regardez ce que je vais faire et faites de même. Nous aussi, nous devons toujours fixer nos regards sur le divin Gédéon, qu'est le Seigneur lui-même. Et c'est ainsi que nous pouvons être conduits à la victoire. Et puis que fait-il? Eh bien, il sonne des trompettes, et nous voyons que ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main, et les trois corps sonnèrent des trompettes et brisèrent les cruches. Ils tenaient dans leur main gauche les torches et dans leur main droite les trompettes pour sonner et crier l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et ils se tenaient chacun à sa place. Et alors nous pouvons mettre en regard de cette portion de l'Écriture ce qui nous est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, ce passage bien connu au chapitre 4. Verset 7, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous, étant dans la tribulation de toute manière mais non pas réduits à l'étroit, dans la perplexité mais non pas sans ressources, persécutés mais non pas abandonnés, abattus mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair. Donc nous voyons là l'enseignement qui nous est donné à travers l'illustration de ce combat livré par Gédéon. Nos corps étant comparés à ces cruches, et c'est dans ces corps où, réalisant le mourir de Jésus, sa vie peut s'épanouir. Les traits de la vie de Jésus s'exprimant dans ses corps, ce à quoi font penser ces torches après qu'ils aient brisé les cruches. Dieu brise le vase par toutes sortes de tribulations pour qu'apparaisse la lumière de la vie divine dans les saints. Et c'est alors que la victoire est obtenue par Christ, par le moyen de Gédéon, par l'épée de Gédéon, qui est l'épée de l'Éternel. Ils se tiennent là, il vaut la peine de souligner cette expression, chacun à sa place, autour du camp, tout le camp se met à courir. Il y a là un ordre voulu par Dieu, et chacun est à sa place pour livrer le combat. Mais au départ, eh bien, il y a Gédéon qui s'engage, il y a ces 300 hommes, et nous voyons que le témoignage engendre le témoignage, selon l'expression que nous avons, tous les hommes d'Éphraïm, au verset 24, se rassemblèrent et s'emparèrent des eaux jusqu'à Bet-Bara et au Jourdain, le fleuve de la mort. Et il y a deux chefs illustres qui sont abattus. Nous aussi, nous avons des victoires à remporter avec ces trois éléments du témoignage pour Dieu dans ce monde que représentent ces trompettes, ces cruches vides qui sont brisées pour que la lumière de la vie divine qui n'est rien d'autre que la vie de Jésus puisse s'exprimer en chacune de nos vies. Mais cela ne peut avoir lieu que par des brisements successifs, que par des tribulations, des perplexités, des souffrances pour Christ et avec Christ, sans doute, mais la victoire est assurée. Il y a le repos qui est obtenu. Il y a sans doute un moment que la parole se plaît à souligner, fatigué mais poursuivant toujours. Sans doute nous ressentons la fatigue qui est inhérente à la traversée du désert, mais en nous appuyant sur Dieu, sur les forces renouvelées que la grâce de Dieu nous communique, nous pouvons aussi poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la victoire soit remportée pour la délivrance de tout le peuple de Dieu. Et nous avons lu cette expression tout à fait remarquable. Madian fut humilié devant les fils d'Israël, il ne leva plus la tête. Satan veut toujours lever la tête, il ne s'avoue jamais vaincu. Et ce qu'il emploie avec le plus d'efficacité, c'est le monde qui nous entoure et c'est le moi qui est en nous, la chair, la nature adamique que nous devons mettre à la place que Dieu lui donne, c'est-à-dire la considérer comme crucifiée avec Christ. Et alors, la vie de Jésus peut s'épanouir en chacune de nos vies. Que Dieu nous accorde d'avoir à cœur ces combats de la foi. Nous avons pour les mener celui qui est notre divin Gédéon, qui est parfait dans tout ce qu'il nous indique pour nous mener à la victoire. Mais n'oublions jamais que nous sommes sur le territoire de l'ennemi et nous ne pouvons obtenir les victoires qu'en regardant à notre chef, qu'en fixant nos yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Et cet élément très important de notre vie, qu'est le combat de la foi, ne le négligeons pas, car il a en vue le bien, la délivrance de tout le peuple de Dieu. Et il y a pour nous aussi un butin, selon cette expression de Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Il y a quelque chose qui est obtenu au-delà de la victoire, une jouissance personnelle de celui qui nous a conduits à la victoire. Et tout ce qui nous attache au Seigneur est du plus haut intérêt, du plus haut prix. Oh, bientôt, nous allons poser les armes lorsque le Seigneur va venir, mais jusqu'au bout que nous réalisions ce combat de la foi. L'apôtre, quand il termine sa course chrétienne, doit dire à Timothée, « J'ai combattu le bon combat ». Et quand il était en train de le livrer, il disait, « Pourvu que j'achève la course », et il était animé par ce désir de combattre jusqu'au bout. d'achever sa course à la gloire du Seigneur. Et quand il a terminé, eh bien, il a le sentiment d'avoir été utilisé par Dieu. Il a servi Dieu en sa propre génération, comme cela est dit de David. Que la grâce nous soit faite d'honorer le Seigneur, de montrer par la manière dont nous combattons avec les armes de la lumière, que nous aimons le peuple de Dieu, que nous avons à cœur les délivrances, car une âme qui est subjuguée sous la puissance de l'ennemi a besoin d'un intercesseur. Le combat peut se livrer dans la prière sans que personne en sache rien. Nous savons qu'Épaphras combattait dans la prière pour que les saints de Colosse demeurent bien assurés dans toute la volonté de Dieu. C'était un homme de prière, c'était un combattant de la foi. Le combat de la foi commence dans la prière, mais il y a des moments aussi où il faut agir, où il faut parler, où il faut dire la vérité. Et la vérité coûte toujours quelque chose. Quand nous la disons, elle nous sonde nous-mêmes déjà. Et n'ayons pas de crainte. Soyons de ceux que Dieu arme de toute sa puissance malgré notre extrême faiblesse. Et ainsi, nous pourrons quitter cette terre dans le sentiment d'avoir eu l'approbation du Maître qui surpasse toute chose dans la vie du croyant. Ce que le Seigneur apprécie, c'est la fidélité par rapport à ce qu'il a révélé. Et nous savons que nous avons reçu beaucoup. Eh bien, à la veille d'entrer dans la joie du Maître, que nous soyons de ceux qui jusqu'au bout combattent le combat de la foi.
You've got a mess.